Europe Soir,
Raphaël Delvolvé.
De retour dans Europe Soir. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des peuples autochtones, journée consacrée à la reconnaissance des crimes, voire des génocides envers ces peuples dont les terres sont encore convoitées. Aujourd'hui, les peuples autochtones sont-ils en voie de disparaître? Où et par quoi sont-ils menacés? Nous en parlons avec Irène Bellier, directrice de recherche émérite au CNRS, vice-présidente du groupe international de travail pour les peuples autochtones. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tout près de nous, il y a cette visite du pape au Canada. Le souverain pontife est venu pour demander pardon aux violences commises par l'Église catholique, entre autres, sur les peuples autochtones entre le 19e et le 20e siècle. Quelques 150 000 enfants ont été enrôlés de force. Ils ont été coupés de leur famille, de leur langue, de leur culture. Le pardon du pape a-t-il marqué les esprits au Canada ?
Le pardon du pape était très attendu parce qu'il vient effectivement quelques 10 ans après le pardon du gouvernement qui avait gouvernement canadien qui avait également prononcé des excuses à l'égard des peuples autochtones pour les politiques des pensionnats par lesquelles les enfants, comme vous l'avez mentionné, ont été arrachés à leur famille pour être placés dans des pensionnats et nombreux ont été les morts et il reste encore des enfants non identifiés dont les gens sont aujourd'hui face à des charniers et c'est extrêmement compliqué de vivre vis-à-vis de ces ossements. Mais le pardon était très très attendu et il a un petit peu déçu d'une certaine façon parce que il a été accordé au regard, disons, des abus qui ont été commis par des prêtres sur les enfants et à la fois dans leur corps, leur chair et leur esprit. On a parlé d'abus sexuels, mais les autochtones attendent effectivement un pardon plus profond de l'Église tout ensemble, tout entière. Quoi. Et c'est ça qui aurait été attendu. Pour l'instant, l'Église ne s'est pas encore prononcée sur la totalité des problèmes, effectivement, qui ont pu être enregistrés par des peuples autochtones de par le monde du fait de ces divers comportements à l'échelle, disons, de l'histoire.
Alors, au Canada, les gouvernements successifs ont été impliqués dans des affaires de violence contre les autochtones. On parle notamment des stérilisations de force.
Il y a eu cela, mais pas seulement au Canada. Les dernières stérilisations de force dont on a parlé concernent plutôt le Pérou. C'est au Pérou que ça s'est passé. Mmh. Au Canada, les derniers états de la réflexion qui est très très problématique, c'est le travail de la Commission nationale d'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui ont montré que cette pratique finalement des non-autochtones consistant à s'emparer des femmes autochtones pour les violer, les assassiner, les faire disparaître, sont racinées dans une pratique très ancienne, un racisme très ancien. Et à cet égard, on parle de génocide culturel et parfois on peut même parler de génocide structurel. Et le point est extrêmement important parce que c'est par là que la société dominante doit se saisir effectivement de la connaissance des situations extrêmement difficiles dans lesquelles vivent les femmes autochtones, mais aussi les enfants, les hommes, les anciens autochtones, du fait justement de ces politiques de spoliation territoriale, d'éducation forcée à l'intérieur de structures qui n'étaient pas du tout adéquates quant à la pour valoriser, disons, les langues, les cultures des autochtones.
Voilà. L'histoire des peuples autochtones très liée à la violence dans les derniers siècles.
C'est une histoire qui est liée en fait à la colonisation et avec la colonisation vient la violence. S'il n'y avait pas eu de colonisation, il n'y aurait pas eu de peuples autochtones d'une certaine manière. S'il y avait eu un État qui aurait incorporé ces peuples dans leur diversité, dans le respect de leur mode de gouvernance, si on avait un État, disons, pluriel, si on avait un État pluraliste, comme cela est en train de s'opérer aujourd'hui avec des transformations constitutionnelles en Bolivie ou en Équateur et probablement aujourd'hui au Chili, on attend beaucoup de la nouvelle constitution qui a été déterminée et qui est en passe d'être adoptée par un référendum et qui vise effectivement à incorporer tous ces peuples qui ont été marginalisés par la colonisation population, qui ont été spoliés, qui ont été discriminés, qui ont été la proie du racisme très ordinaire, ce racisme qui permettait effectivement de s'emparer des femmes pour en faire ce qu'on voulait, ou des enfants aussi pour en faire des objets sexuels, mais aussi des hommes pour les faire travailler gratuitement, ce travail forcé. Tout cela est véritablement le fruit de la colonisation, de mépris à l'égard desquels ont été tenues ces personnes qui sont des ondes très différenciées à l'échelle du globe. Là, on parle des Amériques, mais on peut aussi parler des aborigènes australiens, des insulaires du détroit de Torres, des pygmées d'Afrique centrale, en fait, il y a des autochtones dans 90 pays. Et donc, les situations sont assez variées selon le type de colonisation qui leur a été appliqué, selon la volonté de se débarrasser totalement ou partiellement de ces populations-là. Et le fait est que cette notion de génocide par lequel vous avez ouvert l'entretien est très réelle. On a énormément de situations, de cas de génocide qui n'ont pas été traités comme tels, qui n'ont pas été reconnus comme tels. Et je pense que c'est aujourd'hui le moment de le faire.
Alors, le monde occidental a ouvert une parenthèse de repentance, si je vous ai bien écouté. Dans d'autres contrées du monde, au Brésil par exemple, il y a des défenseurs des droits autochtones qui sont assassinés encore aujourd'hui.
Alors pas seulement au Brésil, il faut prendre...
Je prends l'exemple du Brésil, mais vous en connaissez d'autres sûrement.
Voilà, au Brésil, effectivement, les défenseurs des droits humains sont assassinés pour des causes environnementales et autochtones. Et parmi les causes et les défenseurs, il y a aussi les autochtones. Donc en effet, on peut déplorer de nombreux assassinats. Mais c'est aussi le cas en Colombie, le cas aux Philippines, au Mexique. Tous les autochtones qui effectivement essayent de protéger les territoires, et en protégeant les territoires essayent non seulement de protéger leur société, leur manière de vivre et leurs enfants par exemple, mais aussi la biodiversité, puisque ce que l'on constate également à l'échelle du globe, c'est que les territoires autochtones sont des lieux de biodiversité qui tient au fait qu'ils ont été beaucoup moins densément exploités que d'autres endroits du monde. Donc les économies des autochtones sont des économies de subsistance qui prennent moins d'emprise sur... Alors quand arrive une minière, quand arrivent des colons qui veulent faire du soja, de l'élevage, quand, comme vous avez cité le Brésil, le président lui-même dit plus un centimètre carré pour les autochtones, libre cours à la colonisation pour vous, les fazendeiros, flambez la forêt, faites de l'élevage, ça nous servira pour renforcer le PIB. On est face à un problème extrêmement sérieux, extrêmement grave, aussi bien pour la vie des autochtones que pour la vie de la planète, hein, soyons clairs. Hein. Les autochtones, c'est le premier signe de mort très direct par rapport à ces enjeux climatiques, par rapport à ces enjeux d'exploitation des ressources naturelles et foncières.
Autre endroit du globe duquel j'aimerais parler, Irène Bélier, c'est la Russie. Hein, la Russie, l'ex-URSS, dans une logique de soviétisation du bloc soviétique, Staline a beaucoup fait de déplacements de population. Je pense aux Tatars de Crimée qui sont en train de disparaître notamment.
Absolument. Donc, il y a la politique de Staline a été une politique des nationalités qui a contribué à mettre en place, et ça c'est le modèle purement soviétique, c'est pas valable pour tout le monde entier, des républiques différenciées, comme on pouvait avoir la Yakoutie par exemple, dans laquelle il y a beaucoup d'autochtones. Ces autochtones d'ailleurs de Yakoutie sont par ailleurs donc dans une république qui porte leur nom, mais ils sont là encore, ils commencent à être mis en minorité et donc à perdre aussi un certain nombre d'attributs qui correspondaient à cette république. Mais vous avez mentionné, et c'est très important, la question des Tatars de Crimée, parce qu'ils ont été déportés en Sibérie, puis ils ont réussi après la fin de l'Union soviétique à revenir en Crimée et à redévelopper leurs institutions propres, le Mejlis en particulier, qui est une instance de gouvernance. Et là, aujourd'hui, que la Crimée est de nouveau réclamée et dominée par la Russie de Poutine, ils sont dans une situation extrêmement difficile et réclament d'ailleurs du soutien international.
Et on ne les entend pas, effectivement. Des peuples autochtones, il y en a aussi sur le territoire français, à moins qu'ils ne soient pas considérés comme des autochtones. En Guyane, en Nouvelle-Calédonie, quelle est leur situation, Irène Bélier ?
Alors, ils sont bien considérés comme des autochtones, mais la particularité du gouvernement français qui a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, laquelle a été passée en 2007, et que le gouvernement français reconnaît l'existence de populations autochtones, mais s'attache par la voie de la Constitution à ne reconnaître l'existence qu'un seul peuple français, une langue et un territoire. Par conséquent, la notion de peuple autochtone bute sur ce blocage constitutionnel, un moyen de lever le verrou a été la situation des Kanaks en Nouvelle-Calédonie, qu'on peut appeler Kanaki Nouvelle-Calédonie, qui après les événements que l'on connaît, les événements d'Ouvéa, dont on a parlé à propos des derniers référendums, il y a eu un accord de Nouméa, un accord de Matignon en 88, un accord de Nouméa en 98, et à travers le préambule de cet accord qui parle d'un peuple kanak et du partage d'un destin commun avec les néo-calédoniens dits caldoches, cette notion de peuple kanak est entrée dans la Constitution par la constitutionnalisation de l'accord de Nouméa. C'est un petit peu compliqué, mais c'est très important parce que ça ne s'applique pas du tout ni aux Maoris de Polynésie française, ni aux six peuples autochtones de Guyane française qui sont les Teko, les Arawak, les Païkwene, les Wayana, les Wayampi et les Kalinia. C'est extrêmement important de voir la différence qui tient à des formes par lesquelles le gouvernement français détermine l'administration de ces territoires d'outre-mer et qui varient entre la collectivité territoriale unique et les pays et territoires d'outre-mer. Mais en gros, les Français métropolitains, les petits Français métropolitains ne savent strictement rien de l'existence des peuples autochtones, de la richesse de leur culture, de la valeur de leur pensée, de la valeur de leur savoir. Et c'est très, très, très dommage parce que ce sont des sociétés, comme vous le disiez au début, qui sont en train de disparaître par le fait de l'éducation qui est une éducation homogénéisatrice pour tout le monde, qui vise effectivement à intégrer les sujets dans la police, P-O-L-I-S, au sens grec du terme française, mais qui en même temps marginalise considérablement parce qu'elle ne tient pas compte des situations particulières. Et en Guyane française, il faut attirer l'attention sur un grand problème qui est celui des suicides des jeunes Amérindiens. C'est un problème très grave. Mmh. Il y a une enquête qui a été faite, qui a été commanditée par Valls en 2015. Malheureusement...
On ne manquera pas d'en reparler sur notre antenne. Ils étaient là en premier, ils ont été chassés, parfois massacrés. Cette journée du 9 août leur est dédiée depuis 2014. Journée mondiale des peuples autochtones. Aujourd'hui, merci Irène Bélier d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de ces questions sur les peuples autochtones. Merci d'être